Et ce qui s'est passé dans le mois d'octobre, c'est qu'ils ont augmenté le prix du transport et à Santiago. Et là, les lycéens surtout ont commencé des mouvements d'évasion générale. Et ils s'organisaient pour sortir du lycée tous ensemble et frauder le métro ou ouvrir le métro pour que tout le monde rentre et ne pas payer le transport. Et face à ça, et les autorités ont mis en place des mesures répressives et ils commençaient par fermer le métro et après les lycéens et les personnes ont commencé à ouvrir le métro pour rentrer vraiment et pouvoir rentrer dans les stations de métro et frauder. En fait, il y a eu l'intervention policière et il y avait des policiers partout dans toutes les stations de métro. Et puis ça, au niveau de violence, ça a commencé à augmenter. Et puis le 18 octobre, ça a explosé et les gens ont eu marre de cette répression qui vivait surtout les lycéens. Parce que si, pendant toute cette année, ils ont vraiment mis en place une loi que ça s'appelle Aula Segura, que c'est une loi un peu l'équivalent à une association de malfaiteurs, mais pour des lycéens. Et là, ce jour-là, le 18 octobre, et je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a eu des manifestations et après ça a explosé et il y a eu des affrontements un peu partout dans la ville de Santiago, c'était dans la capitale. Et il y a eu des stations de métro qui ont été brûlées. Puis il y a eu une tour, que c'est un immeuble, un bâtiment de l'entreprise nationale d'électricité qui a été brûlé. Et sous ce prétexte, le président, il a mis en place un couvre-feu que pour nous c'est très violent de le message qu'il a envoyé avec ce couvre-feu parce qu'on n'avait pas eu ça depuis la dictature. Du coup, ça a provoqué dans des générations un peu le choc et le trauma de retourner dans les années de dictature. Et vraiment, vous voyez un peu la génération des personnes qui ont maintenant 40, 50 ans ou plus. Ils étaient vraiment en choc, en état de choc. Et puis, on voyait les militaires dans la rue et l'hélicoptère qui survolait. Et même en écoutant un peu les générations de la cinquantaine et tout, ils étaient vraiment traumatisés. Ils ne voulaient pas sortir de chez eux parce que pour eux, juste avoir l'hélicoptère qui survolait, ça voulait dire pour eux que ils pouvaient tout faire. Ils pouvaient tirer sur des personnes innocentes dans la rue. Ils pouvaient tirer dans des maisons. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils faisaient dans les temps de dictature. Et ça a duré quelques jours. Et il y a eu des morts. On ne sait plus encore combien de morts il y a eu parce que les chiffres officiels disaient à peu près 46 morts, mais on sait pas vraiment. Il y a eu des disparus, il y a eu des viols et des tortures. Et aussi il y a eu des saccages, il y avait des personnes qui rentraient voler dans des supermarchés et tout. Mais aussi, il y a eu des choses très bizarres qui étaient en train de se passer. Par exemple, ils ont brûlé des stations de métro en entier, mais quand même, on se pose la question parce qu'on a vu des vidéos dans lesquelles il y avait des policiers qui étaient à côté et ils ne faisaient rien pendant que les stations de métro étaient en train de prendre du feu. Et puis après ça, même dans des supermarchés qu'ils ont brûlés, après ils ont trouvé des corps, mais ces corps avaient déjà des balles. C'était des corps, en vrai, ce sont des personnes qui n'ont pas été tuées par le feu, elles ont été tuées par des balles. Et même ils ont trouvé des corps des disparus ou des détenus. Et après, il y a eu des personnes qui ont dénoncé dans les réseaux sociaux des centres de torture, que c'est quelque chose et de laquelle ils parlent pas et les autorités. Mais aussi, il y a une criminalisation des jeunes, des étudiants. Si tu as moins de 30 ans, ici, maintenant, au Chili, et tu peux pas être dans la rue tout seul, tu peux pas traîner dans la rue parce que vraiment, maintenant, les policiers, parce qu'il n'y a plus les militaires dans la rue, ils peuvent te prendre et t'embarquer. Et là, ce qu'ils font, chaque fois que tu te fais embarquer, et les gens, ils commencent à crier leur nom, leur prénom et leur numéro d'identité pour ne pas disparaître. Ça fait, bon, là, ça serait la 4e semaine un peu de mouvement. Et depuis le 18 octobre, tous les jours, à Santiago, il y a des manifestations. C'est surtout dans le centre-ville, dans un endroit qui s'appelle Plaza Italia, que c'est là où ils se font toutes les manifestations. Et bon, tous les jours, ça commence vers 17h, même avant. Et là, les activités commencent un peu à se paralyser dans le sens où les gens doivent, et s'ils veulent rentrer chez eux, ils doivent commencer à rentrer chez eux vers 15h, parce que déjà à 17h, c'est impossible de il n'y a pas de transport public, et puis les rues sont coupées, parce que ce qui se fait beaucoup, c'est de faire des barricades dans la rue et couper la rue. Et juste pour imposer le fait que la rue est à nous et imposer un contre-pouvoir face à la répression. Et bon, après, avec tout ça, on a vu plusieurs stratégies qui ont mis en place les autorités. Parce que après, quand il y a eu les militaires dans la rue, et le gouvernement a perdu tout son soutien. Mais vraiment tout le soutien, même des personnes et de droite et tout, même sa coalition ne le soutient plus. Et après ça, ce qu'ils ont commencé à mettre en place comme stratégie et répressive, c'était d'éborgner les gens, et un peu comme on voit là-bas en France, avec le flashball et que les gens commencent à perdre les yeux. Ici, ça fait plus de 200 yeux qu'on a perdu depuis le début de ce mouvement. Et bon, après, maintenant c'est dans tout le pays, ça a commencé à Santiago, mais très 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 vite les autres villes ont commencé à se mobiliser. Et en fait, ce qui se passe maintenant aussi, c'est qu'on voit trop une organisation au niveau territorial, parce que les gens ne s'identifient pas en tant que Chiliens, c'est plus dans leur territoire, et aussi que les personnes qui vivent plus au sud ou au nord du pays, ils en ont marre de la centralisation et qu'il y a, et que tout, ils doivent passer par Santiago tout le temps pour tout est centralisé à Santiago. Du coup, ils ont commencé à s'organiser au niveau territorial, et ils ont commencé à faire des assemblées territoriales et discuter un peu quelles sont leurs problématiques à eux dans leur territoire et qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur réalité territoriale. Et comment faire. Et puis, l'autre chose qu'on a vu, c'était des assemblées féministes. Aussi, il y a des assemblées féministes territoriales ou générales pour parler plus des violences sexuelles qu'on vit dans le mouvement. Et quand je parle des violences sexuelles, bien sûr qu'il y a une population qui le vit plus fort, et un peu comme partout dans le monde. Mais c'est tellement fort que vraiment, même les personnes qu'on peut imaginer qui sont plus des oppresseurs, et là, ils commencent à se faire oppresser par les militaires et par les policiers. Par exemple, le jour où ils ont arrêté le couvre-feu, il n'y avait plus les militaires dans la rue. Cette nuit, il y a eu un homme, 6, hétéro, qui s'est fait kidnapper par les policiers. Pendant 2 heures, ils l'ont torturé, ils l'ont violé, et après ils l'ont jeté dans la rue, comme ça. Mais aussi, on voit que les personnes en situation de rue sont en train de vivre plus ces violences sexuelles. Et par exemple, le deuxième jour, il y a eu une femme qui habitait dans une cité, dans un quartier très très précaire à Santiago, qu'ils ont trouvé son corps pendu. Et ça, c'était un message pour le dire à pour lui dire à tous les habitants de la cité qu'ils devaient rester tranquilles et pas se mobiliser, parce que c'était une cité quand même qui a une histoire assez combative. Et c'est un peu tout ça ce qui est en train de se passer. Et aussi, bon, dans les quartiers les plus populaires, aussi on voit comment les... Et il y a cette répression policière, et ils vont la nuit et ils commencent à intimider les gens, et ils essaient d'embarquer des personnes sans raison. Et hier, mardi, et mardi 12, oui, non, avant-hier, mardi 12, on a vu ce soir-là qu'ils sont allés dans une cité aussi assez connue, qui a une histoire très résistante. Ils sont allés et ils ont essayé d'embarquer un habitant de la cité, et puis tous les autres habitants, et ont essayé de le sauver des policiers. Mais ce soir-là, à cause de ça, après, les policiers sont allés se venger. Et pendant toute la nuit, il y a eu des affrontements, ils balançaient des lacrymos. Et c'était vraiment la terreur pour les habitants de ce quartier. Bon. Et puis, au niveau de résistance, là, les gens sont un peu fatigués. Et ils essaient de résister, de s'organiser et tout. Mais quand même, c'est très délicat. Parce que il y a un côté de la population qui est en train de prendre les armes, et puis face à aux armes policières, il n'y a pas grand-chose à faire pour et se défendre pour résister. Et maintenant, ce qu'ils font le plus, c'est d'utiliser le laser contre l'hélicoptère, mais quand même de l'hélicoptère, ils tirent sur les gens ou ils balancent des lacrymogènes. Et il provoque plusieurs incendies quand les lacrymogènes tombent sur les bâtiments. C'est que aussi c'est ça dans les manifestations, et c'est vraiment il y a plus c'est comme un champ de guerre, parce qu'il y a le front, et là les personnes qui vivent en fait qui vraiment il y a les affrontements, et les gens qui résistent contre les policiers, ils essaient de le faire reculer pour que les autres personnes qui sont plus loin puissent manifester et autrement, des façons plus tranquilles, plus artistiques, plus familiales. Et comme ça. Mais ça dépend de dans quelle partie de la manifestation tu te retrouves, comment les gens se manifestent.